Amis de la Reconquête, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce soir, on va parler de l'actualité avec Nicolas Bonnal. Donc les amateurs, les gnosticophobes, parce que chaque fois que je donne la parole à Nicolas Bonnal, il y a des auditeurs qui téléphonent en disant...
Un auditeur
qui téléphone en disant gnostique. Alors monsieur, je vous signale que ce soir, soirée spéciale gnostique, on pourrait même dire gnostique, et donc vous pouvez parfaitement écouter autre chose, de la musique par exemple, ça vous fera pas de mal, et c'est quand même plus intéressant que ce qu'on va raconter, ça c'est absolument certain. Il y aura un autre gnostique, c'est Pierre Jovanovitch, qui a écrit un livre il y a longtemps déjà, et dont il vient de faire la réédition, augmentée, corrigée, améliorée. Alors lui, il dit, en couverture, réédition enrichie. Comme l'auteur, parce que ça a été un best-seller formidable quand c'est sorti. Ça s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens, et c'est assez troublant, c'est moins qu'on puisse dire, on va en parler. Pour donner le ton général de l'émission, qui sera une émission martiale, puisqu'on est en temps de guerre, je vous rappelle qu'on est en guerre, et qu'on va la gagner. Hein, c'est Donald Duck qui a dit ça. Vous n'avez pas vu? Tu ne trouves pas qu'il ressemble à Donald Duck?
Qui est Bush,
ouais. Et, parce que
c'est
Donald.
Goofy.
Non, c'est Donald. Donald, il a été créé comme ça, à l'origine. Enfin, c'est Eric Arzel qui m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a appelé en me disant, est-ce que tu te souviens que Donald a été créé comme caricature du GI avec la tête près du bonnet et colérique? Et c'est parfaitement vrai, j'avais oublié ce détail.
Vous savez que le capitaine Crochet, c'était Nasser.
Hein, on voilà. Oui, c'est vrai, ça ressemblait beaucoup. Donc, il nous a appris qu'on était en guerre, en croisade. Puis après, il est revenu en arrière et dit non, c'est pas une croisade. La connotation religieuse de ce propos n'est pas appropriée à la situation, effectivement. Ça n'a rien de religieux. Donc, on parlera de tout ça et on va faire une émission martiale sans amalgame. Hein. Attention, pas d'amalgame. Parce que, alors là, l'amalgame, il n'y a plus que les dentistes qui ont le droit de faire des amalgames. Les journalistes n'ont pas le droit. Donc, ne confondez pas. Arabes et musulmans et islamistes et intégristes et terroristes. C'est du, ça n'a rien à voir.
Terroristes et extrémistes.
Hein, et extrémistes, voilà. Et nazis. Il faut toujours que ça termine par nazi, autrement ça n'a aucun intérêt. Autrement, la démonstration ne vaut pas. Donc, un petit peu de musique martiale pour commencer.
Petit peton, petit talon, don 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 et puis don don. Petit peton, petit talon qui donne le ton dans la chanson. Petit peton, petit talon qui danse en rond dans le salon. Petit peton, petit talon, don 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 et puis don don. Petit peton, petit talon, c'est la rengaine qui entraîne les petits petons, petits talons, sur tous les pompons de la Seine. Petit peton, petit talon, pont d'Avignon et d'Aquitaine. Petit peton, petit talon, don 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 et puis don don.
Alors, comme les auditeurs attentifs l'ont subodoré, voire deviné, ça s'appelle la comptine des petits petons. C'est de Alexandra Muller-Chapuis, paroles et musique. Et c'est sous ces dehors anodins, c'est très très martial, et c'est même à la limite du fascisme, parce que c'est petit peton danser en rond. C'est-à-dire on commence à donner des ordres aux enfants, alors, à peine nés, petit peton dondaine, danser en rond dans le salon. Les enfants, il faudrait normalement leur laisser faire ce qu'ils veulent, et ben non, on leur dit danser en rond, et dans le salon en plus. Petit peton dondaine. Voilà, alors si vous voulez pas danser dans le salon, petit peton au noir d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et toutes les cérémonies ne sont pas annulées, celle-là n'est pas annulée du tout, bien au contraire. Il y en a une autre qui n'est pas annulée, qui n'est pas une cérémonie, mais qui est une grande réunion, c'est les BBR, où c'est ce week-end. Hein.
C'est ce week-end, c'est sur la pelouse de Reuilly.
Voilà, et Maude Marin... Oui,
allez-y. Excuse-moi, à la porte de Vincennes, ça se passe...
À la porte.
Oui, c'est Porte de Vincennes. Et c'est les 21, 22 et 23, si je ne m'abuse. Et Maude Marin.
Voilà, elle va venir signer. Elle vient de publier. Enfin, oui, elle vient de publier. Je crois qu'il n'est même pas encore sorti. Il sort samedi ou vendredi. Un livre qui s'appelle Que Messieurs les Assassins commencent. Qui est un gros bouquin sur les conséquences de l'abolition. Et elle le présentera au BBR. Samedi et dimanche. Et puis ensuite, ben, vous pourrez le commander. Enfin, on vous donnera toutes les explications. On la fera certainement venir pour parler de ce livre. Donc ça, ça a lieu. Il y a une cérémonie qui a été annulée par la mairie de Paris. C'est la journée sans voiture pour des raisons de sécurité.
Alors, oui, que ça roule.
Si j'ai du temps à perdre, je demanderai à monsieur Delanoë de m'expliquer pourquoi une journée sans voiture, c'est plus dangereux qu'une journée avec voiture. Mais comme j'ai pas de temps à perdre et que je m'en fous parce que j'ai pas de voiture, et que moi la journée sans voiture c'est 365 jours par an, donc enfin je trouve ça rigolo. Ça montre bien quand même que le fonctionnement de ces gens-là est pas tout à fait normal. C'est, dans leur tête, il y a des engrenages qui marchent pas comme les autres.
Non, mais c'est Jimmy Gueux qui avait raison. Les extraterrestres ont effectivement débarqué en 1945 et ils ont effectivement pris le pouvoir sur Terre.
Enfin, je trouve, moi, si j'étais extraterrestre et que j'ai le droit de choisir ma tronche,
mais ils ont mis une puce dans le cerveau de Delanoë et quelques autres.
Je comprends si tu me dis que, je sais pas, je prends un comédien et un grand acteur américain, c'est un extraterrestre. Je comprends parce qu'ils choisissent leur enveloppe charnelle, hein, dans la vulgate ovniste. Alors le gars, il doit avoir des fous chez eux aussi. Quoi. Le gars, quand on lui dit, vous êtes envoyé en mission sur Terre, quelle tête vous voulez? Il dit, moi, je voudrais être Delanoë. Ça fait sérieux, ça, franchement. Et puis alors, il y a Appel Expo, qui est supprimé aussi. Sans doute à cause de la pomme. Vous savez que le symbole d'Apple, c'est la pomme. Et le symbole de New York, c'est la pomme aussi. Donc ils ont dû se dire qu'en ce moment, c'était pas bon pour leur pomme. Il valait mieux arrêter les...
Serge, j'en ai une mauvaise. Pourquoi il n'y a plus la journée sans voiture? Parce que RER ou Manoumest?
C'est pas mal, ça c'est très bien. C'est... Bon, j'espère qu'on va essayer de décoller un petit peu quand même. Alors, j'ai parlé pour commencer de l'amalgame. Alors, je voudrais y revenir parce qu'effectivement, le danger aujourd'hui, c'est de faire l'amalgame. Je l'ai expliqué tout à l'heure, l'amalgame entre tout ça, qui commence par immigré et qui finit par nazi. Et... En fait, il y a un moyen très simple de résoudre cette délicate question, c'est de demander aux musulmans de s'associer à la lutte contre l'amalgame. Parce que on nous dit, les islamistes ne sont pas des musulmans. Plus exactement, les musulmans ne sont pas des islamistes. Ça revient au même. Hein. Les islamistes ne sont pas des musulmans. Donc si les islamistes...
C'est une approche intéressante. Voilà. On peut le remarquer. Hein, ça, c'est...
Mais c'est intéressant.
Oui.
Hein, bon. Mais si les islamistes ne sont pas des musulmans, ça implique quand même quelque chose de particulier. C'est que je suis pas théologien, surtout pas théologien de l'islam, mais je sais, parce qu'on me l'a dit, je l'ai lu plusieurs fois, que à la Mecque ne peuvent accéder que des musulmans.
Absolument.
Bon,
absolument.
Et que la famille royale d'Arabie Saoudite, saoudite d'ailleurs, parce que maintenant on nous fait dire saoudite, comme on dit Bin Laden, Bin c'est la façon anglaise de dire Ben, donc pour nous on devrait dire Ben Laden.
C'est
et donc l'Arabie, comment?
C'est Mr Bean.
Mr Bean. Mr Bin Laden, comment tu disais? Laden mérite votre confiance.
Oui, Laden mérite votre confiance.
Mais c'est pas le bon
slogan.
C'est
une machine à laver, hein, donc.
C'est pas le bon slogan. Et donc, la famille royale d'Arabie Saoudite, qui est gardienne des lieux saints, devrait interdire l'accès des lieux saints aux islamites, puisque c'est pas des musulmans.
Absolument.
D'autre part, les musulmans qui vont à la Mecque devraient arrêter d'y aller tant qu'il y aura des islamistes, parce qu'ils sont, ils vont se souiller avec le contact, par le contact avec l'infidèle. En étant, donc, à mon avis, il faut fermer la Mecque jusqu'à ce que la famille royale d'Arabie Saoudite, ait réglé ce problème des islamistes. C'est sérieux ce que je dis, parce que, nous, on peut pas juger, mais eux, au moins, ils savent faire la différence. Ils font pas l'amalgame. Donc, il faut qu'ils le tranchent, cet amalgame. C'est très, très important, moi, je crois, hein.
L'autre chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas déclarer la guerre au Japon en 41, il ne faut pas faire la guerre aux Japonais, il ne faut pas bombarder le Japon, parce que la bombe ne saura pas faire la différence entre l'hystérique militariste japonais et le pêcheur d'Hiroshima. De la même manière, il ne faut pas bombarder Hambourg, parce que la bombe ne saura pas faire la différence entre le criminel de guerre nazi et la femme de ménage de Hambourg. De la même manière, il ne faut pas bombarder Dresde pour les mêmes raisons, etc.
Pas bombarder.
Donc là, on est en face d'une aberration totale, mais si on pousse jusqu'au bout le raisonnement, s'ils ne veulent pas déclencher la guerre contre l'islam, c'est parce qu'ils doivent commencer par se bombarder eux-mêmes, les démocrates. Et là, ça pose un autre problème.
Alors, d'ailleurs, moi, j'ajouterais simplement, c'est que, au vu des événements, on peut dire que les Japonais étaient des gens extrêmement civilisés, finalement, à Pearl Harbor, parce qu'ils n'ont bombardé que des installations militaires.
avec l'autorisation du président Roosevelt.
Voilà.
Mais c'est quand même... moi, je reviens sur mon histoire d'amalgame. Je crois que là, l'affaire est entre les mains de la famille royale d'Arabie Saoudite. C'est à eux de gérer ça. C'est pas un problème à nous, ça. Nous, en France, on n'a pas d'islamistes.
Ce qui pose d'ailleurs un problème.
On ne peut pas avoir d'islamistes, puisque le pouvoir politique en France, garant de la sécurité publique, nous dit, ne confondez pas islamistes et musulmans. Donc ça veut dire qu'eux, ils confondent pas, puisqu'ils nous invitent à ne pas confondre. Donc on sait très bien que s'il y avait des islamistes terroristes en France, ils seraient immédiatement expulsés. Or, comme personne n'est expulsé, c'est qu'il n'y en a pas. On ne peut pas imaginer que M. Vaillant, le ministre de l'Intérieur, qui est un homme brillant, accepterait que restent en France des gens qui sont suspects d'être des amalgamés. Donc on est obligé de croire qu'il n'y a pas d'islamistes en France, il n'y a pas de fanatiques musulmans.
Vous savez, c'est un peu comme le nuage nucléaire après l'explosion de Tchernobyl, elle s'est arrêtée aux frontières.
Voilà.
Elle s'est arrêtée aux frontières.
Donc le terrorisme.
Pas traverser la frontière.
Le terroriste islamique s'arrête à la frontière. Les musulmans entrent, pas les islamistes. On a un filtre sélectif, on appelle ça. Hein. C'est des filtres par osmose, hein. Le contraire de l'osmose, je sais pas. Enfin, il y a un nom comme ça pour des filtres très particuliers, très très pointus, si j'ose dire. Et alors, l'islamiste reste, il reste en Italie, il reste ailleurs, en Albanie, des pays improbables. En France, il n'entre pas. Donc, il faut que ça continue comme ça. Mais en attendant, le problème, c'est que les musulmans, les bons musulmans qui sont en France, qui sont tous les musulmans qui sont en France sont des bons musulmans, je crois que j'ai fait la démonstration, la preuve par Vaillant, eh bien, eux ne peuvent plus aller à la Mecque maintenant. Parce qu'ils risquent de rencontrer des gens qui ne sont pas fréquentables. C'est embêtant tout ça, c'est une histoire compliquée. Un commentaire là sur cet aspect de la question, Nicolas ?
Non. Peut-être parce que les islamistes sont des êtres numériques.
Ah, tu veux dire que les islamistes n'existeraient pas, qu'ils ont été fabriqués d'une façon artificielle par...
C'est la théorie que j'ai exposée dans le Libre Journal. C'est-à-dire que les islamistes sont partis, si j'ose dire, en numérique du Nord. En numérique du Nord, ce sont des EGM, des êtres générés médiatiquement, qui ont été créés par Hollywood depuis une trentaine d'années et qui ont fini par, comme dans toute sorcellerie pratiquée à l'échelon industriel, par avoir une existence réelle et qui arrivent à faire reflouer des gens qui d'ailleurs sont guère plus réels qu'eux, puisque, si j'ai bien compris, il suffit d'avoir un cutter en plastique pour recueillir 100 000 morts. Donc au point où nous en sommes, ça peut aller de plus en plus loin. Puisque donc dans le cadre de Chéri, on a détourné l'avion, on considère qu'avec deux cutters et un
Sharif
plastique...
Sharif, on a détourné l'avion.
Ouais, il y a 200 personnes qui refluent à l'arrière d'un avion, tout le monde se précipite sur son portable et dit « Chéri, on a détourné l'avion et c'est super ». Et donc on demande au pilote « C'est à toi, t'es pas content, moi j'étais corche avec le couteau de plastique ». Et le pilote dit « Oui, très bien, ben, pas de problème, je vais m'écraser sur les tours, ne me faites pas peur avec votre couteau, cher monsieur ». Et ça se termine comme ça. Alors comme dirait l'autre, dans quel monde vivons-nous, mon cher monsieur?
Oui, alors toute cette histoire est tout à fait intéressante. Je voudrais quand même attirer l'attention de l'auditorat, s'il en reste, sur des aspects quand même particuliers de cette affaire. On nous a dit tout de suite qu'on avait trouvé, à peine l'avion décollé, on a trouvé dans un parking une voiture dans laquelle il y avait...
manuel de pilotage.
Un Coran et un manuel de pilotage en arabe.
Oh non,
hein, ce qui veut dire que les gars, ils ont appris à piloter, mais ils n'ont pas appris l'anglais. Un manuel de pilotage de Boeing en arabe, je voudrais qu'on m'en montre. Je me demande si ça existe en français. À mon avis, ça n'existe pas en français. Et je serais surpris que cela existât en arabe. Mais enfin, ils en ont peut-être imprimé un spécial. Réservé strictement aux terroristes islamiques.
Remarquez, c'était peut-être le flight simulator de Microsoft en arabe, tout simplement.
C'est possible. Alors, ce qui m'étonne dans cette histoire, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que on a trouvé donc le Coran, on a trouvé le manuel de pilotage en arabe, mais on n'a pas trouvé une paire de babouches ni une boîte de Ra'at Lokoum, qui normalement, pour terminer le portrait du terroriste moyen, s'imposait.
Il y avait les mémoires de Monseigneur Lefebvre.
Non, c'est pas les mêmes, ça. C'est pas les comme nous dit un auditeur, confondez pas intégristes et fondamentalistes, parce que les intégristes, c'est réservé aux catholiques.
Je ne sais pas si vous avez entendu aux informations récemment à propos de l'enquête du FBI, mais donc l'enquête, les Américains disaient que un des terroristes donc avait été repéré dans une école de pilotage, et les soupçons étaient éveillés parce que ce monsieur ne s'intéressait pas aux phases d'atterrissage. Il il voulait simplement apprendre. Et puis le film n'est pas atterri.
Les phases de détournage.
Manifestement, ça n'a pas fait tilt dans leur tête quand même.
On a entendu la directrice de...
Ils payent en dollars, donc ça va.
On a entendu
c'est tout ce qui compte.
La directrice de l'école en question qui disait, qui disait textuellement, il n'était pas très doué. Il lui a fallu 58 heures pour apprendre ce que les gens apprennent normalement en 20 heures. Et il ne voulait apprendre ni à décoller, ni à atterrir, seulement à tourner.
C'est fou, ça. Non, mais c'est insensé.
Moi, je voudrais savoir si on nous prend pour des pélicans. Hein. Alors, comme le coup du passeport qui a été projeté au moment de l'explosion. Alors, quand on a vu les images de l'explosion, à l'intérieur de l'explosion, à l'intérieur de l'avion, il devait faire, je ne sais pas, de 8000 degrés. C'est-à-dire que tout a été vaporisé, littéralement. Sauf le passeport, qui, lui, a été projeté à quelques centaines de mètres, où il a été retrouvé dans il y a 400 000 tonnes, j'ai entendu, 400 000 tonnes de débris.
Ça fait plus que la Tour Eiffel.
C'est beaucoup, hein. 400 000 tonnes de débris, de gravats, de cochonneries et tout. Et ils ont trouvé un passeport qui doit peser tout habillé, tout mouillé, si j'ose dire, 84 grammes. Ils sont quand même très très forts, hein. Très très forts. Et naturellement, c'était un passeport au nom d'un... Bah, au nom d'un islamiste. C'était un nom islamiste qu'il y avait dans le passeport.
On va dire un tyrolien. Je propose de changer le mot. Pour avoir la paix, on va dire tyrolien.
Un islamiste correct.
Peut-être un islamiste
qui
tyrolien.
Qui manifestait en culotte de peau de cochon dans ces basses montagnes d'Afghanistan.
Alors, moi je veux bien tout ce qu'on veut. On peut me raconter n'importe quoi. Si ça amuse le raconteur, ça me fait plaisir que ça lui fasse plaisir à lui, mais je voudrais pas être obligé de le croire. Moi je crois pas du tout que ça soit passé comme ça. Pour ne rien cacher, j'ai appris par exemple on en parle dans le journal, que le maire de San Francisco a dit lui-même qu'il avait été étonné parce qu'il devait prendre le matin même, le matin du 11, un avion pour venir à New York, et qu'il avait reçu un appel téléphonique lui disant « ne prenez pas l'avion demain matin », et son interlocuteur s'est présenté comme un responsable de la sécurité aérienne. Alors,
ah bon?
Oui, dit textuellement par le maire de San Francisco. Également, la charge de courtage, je crois, c'est du courtage Goldman Sachs.
Oui, absolument.
Bon, eh bien, les dirigeants de Goldman Sachs ont reçu un mémo les invitant à ne pas être présents à la tour dans la journée du 11. Et le mémo a circulé. Il y a plusieurs personnes qui témoignent de ça. Les Français ont prévenu que des choses se préparaient, des attentats terroristes graves. Les Indiens ont prévenu, ils ont envoyé. Pourquoi les Indiens n'ont pas été pris au sérieux? Parce que la photographie, ils avaient photographié des terroristes islamistes qui s'entraînaient à tirer sur une cible. Et alors, les Américains ne sont pas pris au sérieux parce que la cible était à l'effigie de Clinton. Les Américains ont dû dire, si c'est des gars qui savent pas que c'est Bush qui est président de la République, ils sont pas dangereux. Les Belges avaient prévenu aussi. Il y a un détenu dans une prison allemande qui a obtenu l'autorisation de téléphoner à la Maison Blanche, un islamiste, et qui a prévenu qu'il y avait un attentat en préparation, et il n'a pas été pris au sérieux. Il a voulu envoyer un fax. Les gardiens de la prison en Allemagne le lui ont interdit. Et le lendemain de l'attentat, ou le surlendemain de l'attentat, il y avait deux types de la CIA et deux types du FBI qui arrivaient dans la prison pour interroger le gars. À mon avis, c'était un peu tard. Mais enfin, bon, un peu tard du 14 juillet, évidemment. Mais donc on a l'impression confuse, mais quand même assez précise, que les choses se sont peut-être pas déroulées très exactement comme on nous les raconte.
Vous voulez dire que c'est un peu comme Pearl Harbor, justement?
Ça pourrait être quelque chose comme ça. Il y a encore un autre aspect. C'est qu'en France, on nous explique que les intégristes islamiques, du genre Kelkal ou Bigouya à Béziers, sont en quelque sorte des victimes du système. Hein. C'est des garçons qui n'ont pas pu s'intégrer, parce que la société les rejette, parce qu'on est raciste, parce qu'on ne les accepte pas, on leur donne pas de travail, ils vivent dans des ghettos. Et naturellement, bah, ils tournent mal par désespoir, et puis ils prennent la haine par colère. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, tous les garçons qui ont précipité les avions sur les tours. On a vu leurs photographies à la une des journaux, on a lu leur pédigré. Ils sont tous ingénieurs en informatique, ingénieurs en génie civil. Ils ont passé des brevets de pilote. C'est des gars qui sont mariés, pères de famille, qui vivaient dans des petites maisons tranquilles aux États-Unis. Autrement dit, ils étaient parfaitement intégrés. Donc il faudra qu'on m'explique pourquoi c'est des gens intégrés qui ont désintégré la tour les tours de Manhattan. Et pourquoi en France c'est l'absence d'intégration qui rendrait certains islamistes dangereux.
On en revient à Tocqueville encore et toujours, les révolutions ne sont jamais faites que par les privilégiés dans la démocratie en Amérique et l'ancien régime.
Il y a beaucoup de questions qu'on a parfaitement le droit de se poser dans cette affaire et dans la gestion de cette affaire et dans ce qui a suivi, notamment le comportement des Européens qui ont immédiatement, Chirac par exemple, c'est extraordinaire, a immédiatement fait savoir que la France était du côté des Américains et qu'on était à la disposition des Américains pour les aider, pour les soutenir dans leur opération de représailles qu'ils avaient décidé, et dont M. Chesnay a dit que ce serait une guerre longue et dévastatrice. Comment il peut le savoir avant qu'elle ait commencé? Donc ils veulent une guerre longue et dévastatrice. Chirac a dit qu'il mettait nos troupes à la disposition, et puis au bout de 3 jours ou 4 jours, il dit qu'il faudrait peut-être voir quand même si c'est sous réserve que ça corresponde exactement à ce qu'on pourrait espérer. On n'est pas absolument certain qu'on va... bien sûr, on est d'accord pour soutenir l'Amérique dans sa lutte contre le trafic d'armes et le trafic de drogue. Ça, tout à fait d'accord. Mais aller casser la gueule aux talibans en Afghanistan, pas tellement. Il faut dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui sait lire dans l'entourage de Chirac et qui lui a dit, attention, Alexandre a pris une raclée, les Russes ont pris une raclée, les Anglais ont pris une raclée, les Russes ont repris une raclée. Donc ce serait pas exclu aussi que...
L'homme qui voulait être roi a pris une raclée.
L'homme qui voulait être roi a pris une raclée. Ça serait pas du tout exclu que les Américains prennent une raclée, et si les Français sont avec eux aussi. En tout cas, on voit bien que les choses sont très 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 loin d'être aussi claires qu'on nous les a présentées au début.
Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas du tout de croisade et pas du tout de guerre, et qu'il n'y aura rien du tout. Ils ne vont rien faire. J'en suis convaincu. C'est un procès, j'en parlais avec Jean Robin hier soir au téléphone, c'est un procédé de la contre-initiation pour sidérer un peu plus les opinions mondiales, pour nous préparer à autre chose, mais qui ne sera évidemment pas une guerre contre l'islam.
Alors ça, c'est encore un autre aspect. Absolument, c'est un aspect qui me paraît très intéressant. C'est l'utilisation de cette affaire pour terroriser, pour pétrifier, pour sidérer littéralement les populations. Et on le voit avec les messages qui... vous voulez venir avec nous, mon cher Daniel Amiche, pour vous joindre à la conversation?
Je veux bien, moi, je suis toujours pour les invitations. Il y a quelque chose à boire, non?
L'avis du roi.
J'ai pas bien suivi le début de l'émission, parce que j'étais dans les transports.
Mais vous êtes au courant de l'actualité, vous savez ce qui s'est passé
Qu'est-ce qui s'est passé?
New York, grand marché pour Monsieur Bouygues, on m'avait appelé pour me dire ça.
Ah, pour le papa de Bin Laden aussi, je pense qu'il y a un marché intéressant. Donc...
Alors, à propos de Bin Laden, il y a quand même une chose à dire, c'est que imaginez simplement que les talibans disent, eh ben, on le livre, voilà, on l'arrête et on le donne, voilà, on l'amène à Washington demain. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de leur guerre, les Américains, là?
C'est terminé, il n'y a plus.
Il n'y a plus de guerre. Ils ont, ils ne peuvent plus rien faire. Ça serait une mauvaise limonade pour eux, ça.
Oui. Moi, je ne pense pas qu'ils vont le livrer, mais s'ils le livraient, de toute façon, ça ne changerait rien.
Donc, je reviens à ce que je disais.
Parce que le moule dont est sorti M. Bin Laden est un moule qui existe encore, il n'est pas cassé.
Oui, mais le seul argument de Bush, c'est de dire, on veut Bin Laden, Ben Laden. Vous nous le donnez ou on vous attaque. Et si les gars disent, tenez, prenez-le, voilà.
Il est à vous. Dépend du prix.
Ouais. Alors, je reviens à ce que je disais sur la sidération. J'ai entendu toutes les radios...
J'aime bien cette expression, parce que ça a été vraiment la sidération médiatique pendant... ça continue encore.
Mais ça continue, et ça s'aggrave. Parce que maintenant, c'est fini, la tour, elle est tombée, elle est en poussière, on n'en parle plus. Et il y a encore là un aspect, je fais encore une parenthèse, il y a quelque chose de très mystérieux dans cette histoire. On nous dit qu'il y a 5000 disparus, 5873 disparus. Donc on peut imaginer qu'il y a environ 5000 personnes sous cette tour. Mais où ils sont passés? Il y a un journaliste qui est allé, qui a fait le reportage sur les tremblements de terre en Turquie, et qui disait, c'est incompréhensible. En Turquie, au bout d'une semaine, c'était, on ne pouvait pas approcher des ruines, tellement les effluves étaient insupportables. À New York, rien. Comment ça se fait? Où ils sont passés? Bon, ça, c'est aussi un mystère. Alors, sur la sidération, on entend depuis deux jours des gens qui nous expliquent que, attendez, c'est pas fini, la tour est tombée, mais ça peut être bien pire. Imaginez que des terroristes se soient emparés de souches microbiennes ou de bacilles, et qu'ils les larguent depuis un avion sur Paris. Alors, entre parenthèses, c'est complètement idiot de les balancer depuis un avion. Il suffit de traverser Paris en voiture et de laisser tomber des ampoules, et puis c'est fini. Ce n'est pas la peine de s'embêter avec un avion. Mais c'est l'idée de l'avion. C'est pour relier à ce qu'on a, à des images connues, donc pour rebondir sur la terreur. Et alors maintenant, on nous dit que Ben Laden a la bombe atomique.
Ah ça, j'étais pour.
Il a des armes. Ah bon, il a des armes tactiques. Ah bon, non, ça a été dit d'une façon très officielle dans une revue confidentielle américaine qui appartient au Washington Times et qui s'appelle Géostratégie Directe. Voilà. Géostratégie Directe dit Ben Laden a acheté des armes atomiques tactiques dont il dispose.
C'est peut-être pour justifier le fait qu'ils vont les neutraliser, peut-être.
Ah. Alors moi, je trouve qu'il y a un jeu autour de cette histoire, autour de... Il y a un jeu de sidération qui va dans un sens très précis. Il s'agit... On a entendu tout de suite des gens nous dire il faut... il n'y a que le mondialisme, il n'y a que le gouvernement mondial qui peut faire face à ce genre de problème. Donc très vite, un gouvernement mondial... Et ensuite, on nous a expliqué que, et ça on a vu l'attorney général des États-Unis qui est venu en disant on a un gros problème de surveillance parce que, avec la loi actuelle, quand on demande l'autorisation d'espionner des téléphones, on a l'autorisation d'espionner une ligne de téléphone. Et donc il suffit que la personne qu'on veut espionner change de téléphone pour qu'on puisse plus l'espionner. Il faut redemander une autorisation. Donc, dit-il, il faut changer le système, et il faut qu'on ait l'autorisation d'espionner la personne en question. Seulement, ça va rien changer, puisque quand il va changer de téléphone, on le saura pas. Et il y a un projet qui a été déposé il y a déjà au moins deux ou trois ans, peut-être plus d'ailleurs, parce que c'était au début de l'émergence des téléphones portables. Et il y a un projet très sérieux qui est d'attribuer, ça remonte bien avant les téléphones, mais d'attribuer à chaque personne, à chaque habitant de la Terre, à sa naissance, un numéro, qu'on appellera le numéro, c'est le numéro de sécurité sociale, hein, le numéro de sécurité sociale mondiale. Bon, c'est pas compliqué, c'est un numéro à 13 chiffres. Ça suffit à indiquer le lieu de naissance, enfin,
le sexe,
la région de naissance, le sexe,
le pays,
la date, le mois, le pays, et puis un numéro d'ordre. La proposition qui est faite, c'est que ce numéro vaille pour tout, c'est-à-dire que quand on achètera une voiture, la puce qui sera introduite dans la voiture portera ce numéro. Le numéro de sécurité sociale, ça sera celui-là. Le numéro de carte d'identité, ça sera celui-là. Et le numéro de téléphone, ça sera celui-là. Si bien que quand on voudra espionner quelqu'un, on utilisera ce numéro. Que le gars change de téléphone ou pas, ça ne changera absolument rien, puisque on saura immédiatement à qui appartient l'appareil téléphonique qui a été utilisé. Et par lui, par cette personne, on pourra savoir dans quelles circonstances il a donné accès à son téléphone aux terroristes. Alors, ça, Nicolas, il y a un gars qui a fait qui a dit une chose qui m'a paru très très sensible, très sensée, pardon, c'est que Ben Laden, c'est Goldstein.
Moi, au début, je croyais qu'il n'existait même pas et qu'ils ont créé une espèce de portrait robot, de portrait rebeu, du méchant, du bad boy officiel de la mondialisation. Et on le voit trôner dans une caverne. Alors, ça fait un peu parodie du prophète Mohammed qui est justement visité par l'ange Gabriel dans la caverne. On le voit devant un planisphère qui, j'ai pas vu de près, mais peut-être est un planisphère aussi bien des années 70, va savoir, c'est-à-dire avant même la disparition de la défunte Union soviétique. Et il fait penser à Chaplin, le dictateur, lorsqu'il jongle avec son petit ballon volant en forme de globe. Ensuite, il a le turban, la barbe synthétique. Donc ça fait un peu penser à ces images de portraits rebeux que j'évoquais, qui peuvent numériser et crayonner à loisir. Et puis là, la Kalachnikov, l'inévitable Kalachnikov entre les bras, et donc ça fait penser aux bolcheviks avec le couteau entre les dents. Et boum, ils nous ont bombardé.
C'est d'autant plus rigolo qu'il est la Kalachnikov que lors des récentes manœuvres de l'OTAN en Géorgie, on a livré l'OTAN, enfin pas l'OTAN, mais des gens qui étaient dans ces manœuvres, ont livré à des émissaires de rebelles tchétchènes des caisses de M16. Donc normalement, ils vont avoir un M16, pas une Kalachnikov. Mais la Kalachnikov, dans la tradition, dans le légendaire, dans l'imaginaire collectif, c'est par définition l'arme de l'homme dangereux.
Ouais, ou du révolutionnaire.
Révolutionnaire. C'est avant, c'était le couteau entre les dents, maintenant c'est la Kalachnikov entre les bras, tandis que le M16, c'est l'arme de Clint Eastwood, de Stallone, donc c'est l'arme du bien. Voilà, le M16 c'est l'arme du bien, la Kalachnikov c'est l'arme du mal.
Et donc on a cette espèce d'être numérique là, situé au fin fond d'une montagne d'un état mystérieux, qui a inspiré Kipling et John Huston pour L'homme qui voulait être roi, le Kafiristan, donc la terre de l'incroyant, terre maçonnique en diable, c'est le cas de le dire, puisque les deux zombies, là, Gravotte et son compère qui s'avancent dans cette zone, tombent sur des Ariens, des blonds aux yeux bleus, en état d'arriération totale.
Des bons Ariens.
Des bons Ariens, ouais. Et qui ne sont même pas musulmans et qui sont baptisés les incroyants. Alors là, on est aux antipodes de cette histoire de talibans. L'histoire de talibans qui m'amuse, puisqu'il y a quelques mois, ils se sont fait connaître à la vindicte mondiale, sans qu'on ait aucune image d'ailleurs, hein, au prétexte qu'ils auraient détruit des bouddhas gigantesques situés dans je ne sais quelle vallée, et des bouddhas alexandrins.
Ils n'ont fait que devancer d'ailleurs les gendarmes qui ont démoli la statue du mandarin.
Oui.
Parce que c'est exactement la même chose.
Charlie Hebdo veut détruire le Sacré-Cœur maintenant. Donc
voilà,
pas s'arrêter en si bon
chemin. Les Khmer rouges ou les Khmer islamistes de Charlie Hebdo veulent détruire le Sacré-Cœur. Mais Jospin aussi, quand on a dit à Jospin quel monument parisien détruiriez-vous si vous aviez le pouvoir, il a répondu le Sacré-Cœur.
C'est le seul endroit de Paris où on se sent bien, donc je comprends pourquoi
il n'y a
pas de problème. Donc cette histoire de Ben Laden, c'est aussi cette création hollywoodienne dont je cite dans l'article publié dans ton dernier numéro du Libre Journal. Je cite donc un certain nombre de films américains
qui ont
une vingtaine d'années. Décision ultime, Mort ou vif avec Rutger Hauer, l'acteur de Blade Runner en 87, sur également des hystériques barbus qui font n'importe quoi. Et je cite Couvre-feu, qui est intéressant parce que justement ça pose la question de l'amalgame. Et donc il y a Denzel Washington qui lutte contre un méchant général américain qui parque les musulmans dans des camps aux confins de New York alors que la ville est dévastée. Alors à chaque fois ils essayent de créer un bad boy, et il se trouve toujours que le bad boy, ça c'est le problème des Lumières et de la démocratie, c'est qu'ils ont la tête bourrée de référence à la différence et à l'autre, mais ils sont incapables de penser l'altérité. C'est-à-dire que pour un type d'Hollywood, un musulman, c'est un type qui est nécessairement allé dans une université américaine, qui est nécessairement formé par la CIA, qui nécessairement veut lutter contre nous par nos propres armes.
Et qui nécessairement porte un cutter dans sa
poche.
Voilà. C'est quand même le cutter, c'est important.
Ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un est un autre modèle de civilisation. Alors moi je vais en parler, puisque juste une seconde, on m'a accusé souvent d'être gnostique. Donc j'ai connu à l'époque des Guénoniens qui sont entrés en islam, comme ils disaient eux-mêmes, suite à l'affaire Rushdie. Donc c'est une histoire qui est assez vieille, de 12 ans. Je discute avec un d'eux une fois à un restaurant chinois où il recrachait ses aliments croyant avoir avalé du porc. Et il me dit que justement il ne faut pas manger de porc parce que les porcs c'est très dangereux parce que justement c'est des juifs. Alors je lui dis ah bon, et alors il m'explique hein, à la manière guénonienne, tu vois, tac 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 tac.
Premièrement, deuxièmement.
Ouais, c'est comme à Sciences Po. Et donc le porc c'est pas bien parce que lorsque Moïse est redescendu du Sinaï, Allah a décidé d'exterminer tous les juifs qui adoraient le veau d'or et il les a transformés en porcs. Donc c'est pour ça que les musulmans ne doivent pas manger de porc. Et ça, c'est leur explication. C'est leur explication.
Pierre,
pardonnez-moi, j'ai vu un taliban justement à la télévision il y a 2-3 jours qui nous expliquait donc avec son traducteur que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas manger du porc, c'est parce que le porc ne défend pas sa femelle. Et donc sa femelle est montée par les autres mâles. Et en conséquence, donc c'est un aliment impur. Donc c'est une origine sexuelle.
Ils ne mangeront pas.
Non mais chacun son explication.
Non mais je j'ajoute ça parce que je trouve ça complètement intéressant.
On dit aussi parce que c'est un animal sédentaire.
Parce que là, au moins, je sais
pas nomade,
pourquoi ils ne mangent pas de porc. En fait, c'est parce qu'ils ont peur que leur montre leur femelle. J'ai vu ça vraiment sur France 2, il y a 3 jours.
Oui, alors, bon, ça, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse plus encore, c'est de savoir pourquoi, d'un seul coup, tout le... Alors, je signale... Serge de Beketch. Et donc, pourquoi nous dit-on, pourquoi d'un seul coup, mettons un terme à des années de, ouvrez les guillemets, non-dit. Pendant des années, on a absolument gardé le silence sur tout, sur la réalité de l'amalgame. Hein. Et maintenant, d'un seul coup, il y a une espèce de déchaînement. Et alors on voit arriver à la télévision des gens qui nous expliquent, il y a un exemple par exemple, passez-moi la répétition, il y a un exemple qui m'a frappé, il y a deux ou trois ans, Alexandre Delval, qui est un spécialiste de ces questions, n'était reçu nulle part. Il ne pouvait pas arriver à s'exprimer en dehors de Radio Courtoisie où on le recevait, nulle part. Là, depuis une semaine... On ne peut pas allumer la radio, que ce soit France Inter, Europe 1, Radio Monte Carlo, RTL, RFM, n'importe quoi, je m'en plains pas, mais on entend Alexandre Delval. Or, Alexandre Delval est connu comme le contempteur de l'islamisme et des dangers de la complicité objective des États occidentaux avec les islamistes. Eh bien, d'un seul coup, je lui donne la parole. Pourquoi ? Ce qui me frappe, c'est que, il y a quelques années, 90, on nous a fabriqué en 3 semaines, Saddam Hitler, la 4e armée du monde. Il y a 5 ans, on nous a fabriqué en 3 semaines Milosevic, la 3e armée du monde, ou la 5e, je ne sais plus exactement ce que c'était. Là, maintenant, on nous fabrique Bin Laden. Et ça a été très très vite, parce que comme le disait Nicolas tout à l'heure, on a commencé à parler des talibans au moment de la destruction des Bouddhas. Je dois dire que cette histoire de destruction des Bouddhas, c'est carrément une rigolade, parce que tout le monde se fout totalement de la destruction des Bouddhas. Personne ne les a jamais vus. C'est paumé au fin fond d'un désert inaccessible. Et en plus, ça n'a rien de spécialement extraordinaire. C'est des grosses statues, voilà. Bon, moi, personnellement, je m'en tamponne le coquillard avec une patte d'alligator femelle. Ils peuvent démolir toutes les statues de Bouddha qu'ils veulent. Ça m'est totalement indifférent. Mais on nous a mobilisés là-dessus. Oh là là, ils démolissent les Bouddhas. Bon. Et d'un seul coup, on a vu sortir une série de campagnes de presse incroyables sur le sort des femmes en Afghanistan. Pourquoi en Afghanistan ? Vous allez en Arabie Saoudite, c'est exactement la même chose. Vous allez dans tous les pays... Au Pakistan, c'est pareil. Dans tous les pays arabes... musulmans. Dans tous les pays musulmans radicaux, c'est la même chose. On voit les femmes voilées, pas voilées, ensevelies sous des kilos de lingerie. Mais pas de lingerie fine.
Non, pas de lingerie.
Elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont rien le droit de faire partout. Pourquoi d'un seul coup en Afghanistan ? Mais tout simplement, on le voit maintenant, on nous a préparé un ennemi, un nouvel Hitler. Et puis maintenant, comme par hasard, pour la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, la conclusion de tout ça, c'est l'attentat de New York. Je dois dire que si un esprit mauvais avait tout préparé, il n'aurait pas fait autrement. Alors, je prétends pas... Il paraît que Bush a un QI de 92.
C'est beau pour un président des États-Unis.
Pour un président des États-Unis, c'est pas mal. C'est-à-dire que lui, il doit être capable de mâcher du chewing-gum en marchant, contrairement à Gerald Ford.
Mais faut dire les choses très simplement. Hein, c'est vrai. Beaucoup. C'est vrai. C'est énorme. Beaucoup.
Voilà.
C'est énorme.
Voilà. Nicolas. Revenons.
Moi, ce qui me frappe le plus, c'est finalement ce qui va se passer après. Et je crois que rien ne va se passer. Parce que on parle tout le temps, donc j'en ai parlé dans mon livre sur Internet, de noosphère. Bon, là, on est dans une espèce de phobosphère. La transformation de la planète, ce que je dis dans l'article, en chambre à gaz hilarant et paniquant, où on joue sur tous les registres de l'émotion à partir d'un conditionnement totalitaire médiatique. Le deuxième plan, c'est sur qui tirer. C'est facile de bombarder les Japonais en 45, qui sont chez eux. Aujourd'hui, il y en a 20 000 rue Sainte-Anne. C'est facile de bombarder les Allemands en 45 qui sont chez eux. Aujourd'hui, il y en a 25 millions sur les routes aux quatre coins du monde, confèrent justement les histoires de tourisme liées à Houellebecq. Et c'est difficile de tirer sur les musulmans chez eux, puisque chez eux, c'est chez nous. Et donc, eux, c'est nous. Il faut le dire comme ça, puisqu'ils ont voulu liquéfier l'espace conformément aux prédictions de la fin des temps. Il n'y a plus d'espace à la fin des temps. Il n'y a plus de chez eux, chez nous. Donc, il n'y a plus d'eux, il n'y a plus de nous. Nous, c'est eux et eux, c'est nous. Donc moi je dis, sur qui va-t-on tirer ? Et je dis, de ce fait, ils ne feront rien. Donc la stratégie au troisième niveau de ce qu'on peut appeler la contre-initiation dans cette affaire, c'est une sidération et un enfermement de plus en plus fort, jusqu'à la folie douce et furieuse. de tous les atomes crochus qui composent cette planète et qui sont prêts à se faire tuer parce qu'ils ont peur d'un coup de cutter. Et là, on va vers quelque chose qui est frappant parce que ça peut durer longtemps, comme dans une espèce d'état d'apesanteur lourde, comme dans un roman d'horreur. On a assez dit que c'est un roman d'horreur. Il est temps de lire ces putains, ces fucking de romans d'horreur et de dire, on peut les appliquer. Il est temps de dire à quoi ça correspond aujourd'hui. À quoi ça correspond? Je prends un film qui est sorti cet été, qui était tourné en numérique, qui s'appelle Final Fantasy, adapté d'un jeu vidéo japonais. Le film est remarquable. Donc il est complètement imprégné de New Age, de Gaïa et de tout ça. Et alors, Gaïa est justement dans l'état de New York. Allez voir ce film, Final Fantasy. Vous voyez un New York qui est celui qui est actuellement là. C'est-à-dire que ce film a 3 mois. Et ce film dit, ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas les singes de la planète des singes. Je ne sais pas ce que vous croyez qui a pris le pouvoir sur Terre. Ce qui a pris le pouvoir sur Terre, c'est les fantômes d'extraterrestres qui ont été détruits dans un avion. Et c'est comme ça qu'ils prennent l'esprit des gens sur la planète et qu'ils les transforment en chants là-dessus. Je veux insister sur un dernier symbole. En 1969, on voit quelques cosmonautes planter le drapeau américain sur la Lune. 32 ans plus tard, 2000 ans au-dessus de l'espace, on y est, bravo, c'est bien joué. On a 3 pompiers qui hissent le drapeau américain sur New York, transformé en décor de film de science-fiction.
Ouais, c'est tout à fait une belle image. Alors, un auditeur dit, de la part de l'imbécile de service, que pensez-vous pour les attentats de la piste gnostique dont on parle de plus en plus? Je ne crois pas avoir traité qui que ce soit d'imbécile. De monomaniaque peut-être, légèrement, mais pas d'imbécile. Je crois qu'effectivement, nous avons quelques auditeurs, pour lesquels j'ai le plus grand respect, même une vive sympathie, mais qui sont atteints d'un léger trouble de la personnalité qui s'appelle la monomanie. C'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose qui essaie de sortir un peu des chemins battus, on nous dit « vous êtes gnostique ». Or, je suis pas du tout gnostique, je suis catholique, mais je, nonobstant, je continue à essayer de me servir
mais
de mon cerveau.
Mais on se soigne.
Non, c'est-à-dire, moi je suis tout prêt à me convertir, il suffit que le cutter soit assez bien aiguisé, c'est pas difficile. Hein, voilà. Oui, alors, ma petite Victoria, vous vouliez nous donner la parole aux auditeurs.
Depuis le début, il y en a certains qui ont réagi, mais qui ont changé, probablement. Ah. Alors, en tant qu'américaine, je suis outrée que monsieur de Beckett n'ait pas un mot de compassion.
Mais je l'ai dit la semaine dernière. Attendez, maintenant il faut... J'ai remarqué ça aussi.
Toutes les semaines,
j'ai remarqué ça. Tous les discours, absolument, chaque fois qu'un type prend la parole ou écrit un article sur cette affaire, il commence par dire « Je tiens à dire que mon amitié, ma sympathie, mes condoléances, patin couffin, etc. » Je vais vous dire une chose, chère auditrice américaine. C'est de l'hypocrisie. Parce qu'en réalité, bon, les gens, ils sont un petit peu émus, mais c'est un discours obligatoire. Moi, c'est vrai que j'ai été... épouvanté, parce que j'ai immédiatement imaginé, étant donné que j'ai peur, je veux dire, c'est aussi idiot que ça, j'ai peur en avion. Et j'ai imaginé l'épouvantable terreur des gens qui étaient dans les avions. Et puis, j'ai peur, j'ai tout le temps peur, c'est pas compliqué, je suis un peu heureux. Et quand je suis dans les grandes tours, je suis allé un jour dîner, en haut de la tour de New York, le centre de commerce mondial, et j'étais pas à l'aise. D'abord parce que le haut de la tour bouge d'une façon incroyable. Il y a un battement de plus d'un mètre. Et quand on est assis dans un restaurant et qu'on n'est pas dans un bateau, le fait que la table bouge, que tout bouge, c'est pas satisfaisant pour l'esprit.
Surtout si on mange une crème caramel.
Voilà. J'ai vu cet événement, il y a une image qui m'a terrifié littéralement. C'est l'image de ce personnage qui est à la fenêtre et qui agite un grand linge blanc. Alors, il le fait d'une telle manière qu'on a l'impression qu'il s'amuse au début. On a l'impression qu'il dit « Ouh, je suis là, regardez, je suis sur la photo et tout, je vais dire bonjour à maman, bonjour aux amis. »
Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que je crois que cette dame qui nous appelle et qui est un peu outrée, mais enfin, elle aurait dû écouter l'émission de mercredi prochain, elle aurait vu que...
Mercredi dernier.
Parce que peut-être on va y revenir mercredi prochain. On a beaucoup de compassion pour les Américains qui sont morts, évidemment, dans cette tragédie. Mais moi, j'ai aussi de la compassion pour les Allemands, les Anglais, les Colombiens, les Portugais, les Espagnols, les Néerlandais qui sont, et puis les autres qui sont morts aussi dans cette tour, quoi. Hein? Alors, moi, je veux bien, mais il faut avoir de la compassion pour tout le monde. Il faut pas avoir de la compassion à sens unique. Parce que elle, c'est un petit peu, on doute, hein, quand les gens ont de la compassion. Pendant ce temps-là, bon, les avortements continuent, 500 000 gosses irakiens sont morts, etc. Alors, bon, moi, je veux bien, c'est une épouvantable tragédie, mais quand même, on en a pas fait tant pour beaucoup d'autres choses.
Ceci dit, ça n'enlève pas. Quand il y a eu le Drakkar, on n'a pas fait de minute de silence en France.
Bien sûr.
Donc, moi, je veux bien qu'on fasse 3 minutes de silence.
Non, 2 minutes de silence, c'est totalement franc-maçon, quand même, pour dire les choses comme elles sont.
Si on peut, si 3, c'est pas obligé, on peut en faire 12, on peut en faire autant qu'on veut. Plus ça dure, mieux ça vaut.
Enfin, tout le monde garde à vous à la même heure, partout dans le monde entier, ça a quand même quelque chose d'assez sidérant.
Ça craint.
Mais pour le Drakkar, il n'y a pas eu. Pour les gendarmes d'Ouvéa, il n'y a pas eu. Quand c'est une tragédie qui frappe la France, on ne fait pas de minutes de silence.
Ou d'autres pays que la France, d'ailleurs.
Oui, mais on est tous des Américains.
Alors, continuons.
Pourquoi aborder un sujet aussi sérieux que celui de la désinformation sous l'angle de la dérision ? L'escalade qui se profile depuis le 11 septembre mérite quand même un autre ton. Quant à moi, je ne crois pas un seul mot de ce qu'on me raconte sur les médias occidentaux. Après le coup de l'Irak et celui de la Serbie, méfiance.
Oui,
ça, c'est une question de moyens, cher monsieur. Moi, mes moyens, ils se limitent à la dérision. Si vous pensez qu'on peut parler... Je sais qu'il y a beaucoup d'émissions sur Radio Courtoisie qui ne pratiquent pas la dérision. Vous pouvez les écouter, et là, vous trouverez le ton sérieux, informé, austère... édifiant, qui
pontifiant.
Non, jamais pontifiant, jamais. Non,
sérieux.
Sérieux, qui vous convient. Le mercredi soir, souvent, il y a un petit moment de. On se lâche un petit peu. On se fait pas beaucoup de mal. Hein.
Ça plaît une partie de l'auditoire.
Peut-être, alors, je sais pas.
Qu'essayez-vous de nous suggérer? Les États-Unis auraient-ils eux-mêmes commis ce carnage ou essayez-vous de dédouaner les pays musulmans ?
Non, voilà. Pas du tout. Je dédouane personne, puis pas besoin de dédouaner les musulmans. Je suis pas musulman, je n'ai pas l'intention de le devenir.
Faisons peut-être la discrimination habituelle entre musulmans et islamistes.
Oui, islamistes, bon, voilà.
J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus.
Pour être clair, ce que je crois personnellement, c'est que...
Un musulman, c'est ce que c'est qu'un musulman. Un musulman, c'est un islamiste qui est en minorité dans un pays. Un islamiste, c'est un musulman qui est en majorité.
Majoritaire, voilà. Alors, ce que je crois personnellement, c'est que... c'est pas du tout exclu que cet acte ait été monté de toutes pièces. Parce que on nous fait tout un monde de 5000 morts. Mais étant donné les enjeux d'une affaire comme ça... un homme politique, un chef d'État conséquent, reculera pas devant 5000 morts. Sinon, il n'est pas digne d'être chef d'État. Bush, c'est un homme qui tient entre ses mains la vie de centaines de millions de personnes. Quand il déclare une guerre, quand il envoie des soldats au Nicaragua ou ailleurs, enfin c'est pas son cas, mais ses prédécesseurs, quand ils ont envoyé des soldats au Vietnam, ils savaient qu'il y aurait des morts. Et plus de 5000, quand ils ont envoyé des soldats en Corée, ils savaient qu'il y aurait des morts. Quand ils ont envoyé des soldats en France, ils savaient qu'il y aurait des morts. Et partout. Donc chaque fois qu'un président de la République prend une décision, sauf le hanneton, là, qui de toute façon prend jamais de décision, alors il n'y a pas de danger. Mais enfin, en général, quand un chef d'État prend une décision, le résultat, c'est que ça se solde par de la sueur, des larmes et du sang, et des morts et du malheur. Et tout. C'est indiscutable. Donc me dire, c'est inimaginable qu'on ait pensé de faire tuer 5000 personnes, ça tient pas debout, parce que tout président d'un État, quel qu'il soit, a dans ses possibilités immédiates, dans ses possibilités immédiates, celle d'envoyer des milliers de personnes à la mort. Bon. Maintenant, il faut savoir...
Ça s'est vu dans l'histoire même récente.
Ça s'est vu, bien sûr. Et maintenant, il faut savoir quel est, si on met sur la balance, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile ? Dans le système de Bush, c'est utile. Pourquoi ? Parce que Bush appartient à une société secrète, et ça, c'est pas du gnosticisme, c'est de la vérité historique, qui s'appelle Skull and Bones, qui veut dire tête de mort et ossement, et qui est une société qui réunit l'élite WASP, White American, White Anglo-Saxon Protestant. Les étudiants, certains étudiants de Yale, et qui sont des gens qui sont au pouvoir aux États-Unis depuis maintenant presque un siècle. Le grand-père de Bush était membre de Skull and Bone, le père de Bush était membre de Skull and Bone, et Bush lui-même est membre de Skull and Bone. Et la doctrine de Skull and Bones, c'est la doctrine du chaos constructif. C'est-à-dire qu'il faut, il y a que du chaos qui peut sortir quelque chose de constructif.
C'est le vieux principe franc-maçon, hein, solvé et coagulable.
Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande
la lecture du livre journal.
Il y a un grand papier sur cette question. Et je reviendrai la semaine prochaine, si Dieu me prête vie.
Et celui que tu m'as lu au téléphone, non ?
Non, pas encore. Non. Je le publierai la semaine prochaine.
Ah, bon, c'était très intéressant.
Ben oui, c'est bien.
Bon, on ne peut rien dire, puisque ça va paraître. Hein, mais...
Donc, ce sont des gens qui sont froidement disposés à massacrer des millions de gens. D'autre part, dans cette histoire. Israël a tout à fait intérêt à ce que ça se passe. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Netanyahou qui a été interrogé dans les heures qui ont suivi l'attentat, et on lui a dit, Monsieur Netanyahou, quel effet pensez-vous que cette affaire pourra avoir sur la situation au Moyen-Orient? Et il a répondu, excellent. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est lui.
Ouais, je peux
donc,
faire,
il y a beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que ça...
J'ai le droit de faire deux remarques, même si c'est pas ma partie d'émission. La première, c'est deux questions que je pose aux auditeurs. La première, c'est est-ce que les Américains étaient au courant de l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor?
Bien sûr.
Je pose une question, moi je ne réponds pas. Deuxièmement,
il y a un journal qui vient de sortir qui s'appelle L'autre histoire, dans lequel il y a un dossier très complet sur Pearl Harbor. Avec la preuve, on voit les documents qui prouvent que les Américains savaient, que Roosevelt savait. Et il y a une chose très drôle dans cet article, très drôle, passionnante dans cet article, c'est que Roosevelt savait et n'a pas informé Churchill. Et Churchill savait et n'a pas informé Roosevelt parce que Churchill avait dit c'est un coup génial, ça va obliger les Américains à rentrer dans la guerre. Et Roosevelt disait je vais enfin pouvoir faire rentrer les Américains dans la guerre, les Américains ne voulaient pas. Mais il n'a pas prévenu Churchill pour une raison que j'ignore. Mais il faut lire ce papier de L'autre histoire.
Alors,
qui est passionnant.
Deuxième question. Moi, je fais que poser des questions, parce que moi, je suis le naïf, je suis le candide, je tombe de Sirius, là, depuis tout à l'heure. Deuxième question. Est-ce que les buts de la guerre de 14-18, du point de vue français, étaient uniquement de défendre le territoire contre l'invasion prussienne? C'est tout, je pose juste les questions et aux auditeurs de répondre.
Et continuons à donner la parole aux auditeurs. Cessez d'accuser l'islam. N'oubliez pas que la télévision française, dès le premier jour, a signalé qu'aucune piste n'était à négliger, en particulier celle de l'extrême droite.
Ah, voyons, ah, bah, ça s'en oublie. Ah, by job, on a oublié complètement. Moi, je crois que c'est un complot d'extrême droite. Moi, alors, je pense aussi, oui.
Maigreto le péniste.
Oui, je pense aussi, oui. Je sais pas quel est l'équivalent aux États-Unis, mais...
D'ailleurs, vous avez vu le nom des pilotes, c'est vrai qu'il y a un côté allemand.
Il y a un côté Bosch.
Il y a un côté Bosch assez prononcé.
Alors, la presse américaine a totalement occulté, selon un rédacteur en chef du Washington Times, l'interview du maire de San Francisco, précisant qu'on lui avait déconseillé de prendre l'avion le 11 septembre. Dans l'Est parisien, lors d'un banal contrôle routier, il a été trouvé deux lance-roquettes dans le coffre d'une voiture. Et la dépêche AFP de préciser que cela n'avait rien à voir avec les événements aux USA, qu'il s'agissait simplement de règlement de compte personnel.
Mais oui,
oui, d'accord, oui.
Mais oui, non, mais il y a des... non, mais écoutez, il faudrait revenir, mais vous savez, il y a des clubs, comme il y a des clubs de tireurs à l'arc ou d'arbalétrie, il y a des mecs, il y a des clubs de lanceurs de roquettes. Mais ils ont les papiers.
On détourne les avions avec des cutters et on rêve ces différents personnels de lance-roquettes.
On arrive dans un paradoxe assez intéressant.
J'ai entendu dire que c'était un Ivoirien. Le gars qui conduisait la voiture,
il voyait rien.
Je suis pas étonné. Je suis étonné qu'il ait pas eu de fusil à lunettes. plutôt que des.
Celle-là, elle est bonne. Ça vient de sortir. Elle est bonne.
Alors continuons.
En tout musulman, il y a un islamiste qui sommeille.
Mais non, pas d'amalgame.
Il faudra
d'amalgame.
Nous donner des définitions parce qu'on s'y perd.
Ça vite fait, oui.
C'est pas tout d'amalgame. Pour le moment.
C'est ce que vient de dire Daniel, c'est ça. C'est quand un musulman, c'est quelqu'un qui est minoritaire. Un
islamiste, quelqu'un qui est majoritaire. Vous savez, il y a une chose quand même qui m'a étonné là pendant ces dernières semaines, c'est qu'en fait la DST, donc on a appris ça récemment, la DST a arrêté quelques extrémistes musulmans ou islamistes comme vous voulez, donc ils s'apprêtaient à commettre un attentat donc dans la cathédrale de Strasbourg. Et étonnamment, on n'en parle pas. Vous voyez, c'est quelque chose comme si, surtout la population française ne doit pas être informée de ce genre de choses. Mais je trouve ça, mais tout à fait scandaleux.
Je suis le Ben Laden de Radio Courtoisie.
Ah.
Les dénégations de Serge, je sais pas quelle dénégation j'ai faite, elles sont scandaleuses.
Dénégation.
Oui, les
dénégations.
Les dénégations, je sais pas quelle dénégation.
Vous voyez que t'avais pas posé la bombe.
De Serge Bucquet sont scandaleuses. Vous êtes la honte de Radio Courtoisie. Donc, le Ben Laden de Radio Courtoisie.
C'est Ben Laden.
Et un mauvais provocateur. Donc, je suis pas un provocateur. C'est un mauvais provocateur, c'est raté.
Qui te paye?
Et une précision, tiens. La véritable raison pour laquelle les musulmans ne mangent pas de porc, c'est tout simplement le ténia. Ils ont peur de l'attraper.
Bah, nous, on en mange, on n'a pas le ténia.
Enfin, mais vous avez des médicaments pour vous en défendre.
Non, mais il y aurait beaucoup à dire sur ces questions-là. Moi, je considère que l'islam n'est pas une religion, mais une doctrine, une idéologie, en vérité. Enfin, c'est un point de vue personnel.
C'est tout? Bien. Alors, donc, je vous recommande quand même la lecture du Libre Journal, pas pour le...
Mais il faut donner l'adresse.
Le Libre Journal, mais je vais la donner, mais parce que, vraiment, il y a quelques papiers tout à fait remarquables. Je peux en parler, c'est pas moi qui en suis l'auteur. Notamment le papier de Nicolas Bonnal sur le cinéma, la façon dont la chose a été préparée, annoncée par le cinéma, et c'est un papier intitulé « Chérie, on a détourné l'avion », parce que, bon, évidemment, On me dira que...
Comment faire de l'humour et de la dérision sur un événement aussi tragique et dramatique.
Vous allez avoir des...
Oui. Moi, je dois dire que... Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, mon cher Daniel. Il y a quand même, en France, pas dans le monde, en France, 250 000 enfants qui sont sacrifiés avant la naissance.
Minimum.
Ça relativise pas mal. Hein. C'est,
il y a 500 000 petits Irakiens qui ont aussi le droit de vivre que des Kalmouks, des Tchétchènes ou des Ouïghours ou autre chose.
C'est pas parce qu'on éprouve de la compassion et de la pitié qu'on est obligé de devenir complètement idiot. On a parfaitement le droit de garder son compte à soi, on a le droit de garder sa liberté d'interprétation des événements et sa liberté d'expression sur les événements. Moi j'en ai marre, archi marre, qu'on me dicte mes positions, ce que je dois dire, ce que je dois pas dire, faire, pas faire, quand je dois pleurer, quand je dois pas pleurer, quand je dois me mettre au garde à vous, qui je dois considérer comme un nouvel Hitler, qui je dois considérer comme le petit Jésus et tout. Ça, tout ça m'emmerde pour tout dire. Hein. Et la minute de silence, les 3 minutes de silence, je trouve que vraiment ça commence à faire un peu beaucoup.
Non mais tu les as respectés ou pas les 3 minutes de silence?
Bah non, tu parles à midi, j'ai autre chose à faire que de faire des minutes de silence. D'abord, une minute de silence, j'étais chez moi en train de travailler. Qu'est-ce que tu veux faire une minute de silence? Je parle pas tout seul. Donc je pouvais pas m'arrêter.
Je devais être en train de boire, je pense, je ne sais plus.
Voilà. On va changer de sujet encore. Est-ce qu'on va changer de sujet? C'est même pas sûr. Parce qu'il y a certainement des gens, mon cher Pierre-Jean Devine, dans cette affaire qui ont été sauvés par leurs anges gardiens, si on en croit votre livre.
Bah écoutez, vous savez, c'est une question que je me suis effectivement posée en regardant ces avions s'écrasant sur les tours. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je répète à nouveau une fois de plus, on nous a dit qu'il y avait 40 000 personnes qui travaillaient dans chacune de ces tours et qu'il y avait 115 000 personnes qui passaient régulièrement, des touristes, des visiteurs, etc. Je me suis vraiment sincèrement dit, ayant visité ces tours comme vous, c'est complètement miraculeux à ce niveau-là, qu'il n'y ait, que 5000 morts, parce qu'on...
Disparus,
5000. C'est absolument étonnant. Je ne sais pas si vous imaginez, en plus, ces tours, on a vu des images. Je veux dire, descendre du 110e étage d'un escalier d'HLM, c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, on pensait tous qu'il y avait quand même des moyens de descendre de ces immeubles plus simples, mais pas du tout, c'est des escaliers assez étroits, finalement. Et je ne vous cache pas que, effectivement, oui, il y a des gens, effectivement, qui ont été obligatoirement... mis en garde par les anges gardiens, je n'en doute, mais pas une seule seconde.
Parce que dans votre livre qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui est la réédition, mais largement augmentée, très largement augmentée de la première édition, il y a une collection incroyable de témoignages, avec les noms, tout ça est pas, ça tombe pas du ciel, si j'ose dire, de gens qui ont échappé à la mort d'une façon totalement inexplicable, sinon par l'intercession de leur ange protecteur. Là, j'ouvre au hasard, il y a un témoignage qui dit d'un correspondant de guerre de l'agence Sigma puis de Gamma, qui dit il a vu arriver sur lui une roquette. Et là, le temps, en quelque sorte, s'est suspendu.
Absolument, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous allez retrouver dans ce livre d'autres témoignages avec le temps suspendu, parce que il semble qu'effectivement le temps qui s'arrête est quelque chose d'assez fréquent dans ce type d'expérience. À nouveau, vous savez, ce livre était basé en fait sur des témoignages de gens qui passent qui sortent de leur corps et qui passent dans le tunnel, et toutes ces personnes disait avoir entendu une voix ou rencontré une personne disparue de leur famille ou un ange. Il disait ce n'est pas ton heure, tu dois retourner. Alors que toutes ces personnes effectivement n'avaient aucune envie de retourner dans leur corps déchiqueté, dans la voiture, etc. Ils étaient 10 fois mieux en sortie de leur corps, et ils ont été forcés à retourner dans leur corps. Alors mon sentiment, effectivement, c'est que aujourd'hui, à partir du moment où on prie, surtout c'est quand on prie, quand on a une vie spirituelle, l'ange peut intervenir 10 000 fois plus facilement.
Alors, tous ces témoignages, bon, ce bouquin donne l'apparence quand même d'un bouquin très New Age. Hein. On voit les anges arriver, c'est quand même très à la mode. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à vous, enfin, ou à cause de vous, je sais pas comment il faut dire, que c'est à la mode, puisque quand vous avez sorti la première édition de ce livre, il y a combien, 10 ans, non?
Non, il y a 6 ans, je crois. 6-7 ans. 6-7 ans, oui.
Personne ne parlait de ça, pratiquement.
Ah, pas du tout, mais vous savez, moi, à l'époque, j'ai eu beaucoup de mal à le publier, surtout. Voilà.
Et d'un seul coup, après, on a vu fleurir alors des enquêtes sur les anges machins, sur les anges trucs, sur les losanges, sur les mésanges. Et donc, vous avez, en quelque sorte, lancé la mode. Et puis, le New Age est arrivé, enfin, s'est emparé de ça. Et on a vu fleurir, on a vu prospérer l'idée que les anges vivent parmi nous, et que ça même, on a vu des films, beaucoup de films, on voit les anges intervenir, les anges tomber amoureux et abandonner leur statut angélique pour devenir des hommes comme les autres, etc. Je sais que vous avez rencontré des prêtres pour préparer ce livre.
Savez...
Alors, quelle est la position officielle? Quand ils lisent vos témoignages, qu'est-ce qu'ils disent les prêtres catholiques?
Mon colonel, puisqu'on est en temps de guerre. vous savez, la moitié, on m'a beaucoup reproché, reproché que la seconde partie de mon livre soit consacrée donc aux saints et aux saintes. Mmh. L'étude des anges dans la vie des saints et des saintes. Paradoxalement, effectivement, j'ai reçu pas mal de courriers de prêtres qui me demandaient de les éclairer, entre guillemets, comme si moi, en tant que journaliste, auteur, je pouvais les aider à conseiller leurs fidèles.
Ça me paraît... prononcer la prière de Saint-Michel, de ta lumière.
Oui, non, mais c'était assez surprenant. Alors, je dois vous dire, je vous donne un exemple typique. Je crois qu'une des premières émissions de radio, je crois que j'avais faites, c'était justement ici, avec vous. Et qu'ensuite, je suis passé partout, sur toutes les stations périphériques, sauf une, je crois que j'ai tout fait, sauf une, Radio Notre-Dame. Donc ça vous donne une idée.
C'est rigolo.
Je veux dire, de Radio Courtoisie à CNN, mais Radio Notre-Dame, c'est un silence radio, permettez-moi l'expression. Je veux dire, j'ai l'impression de ne pas... Enfin, ce livre n'a absolument pas plu donc à la vie catholique, enfin, toute cette partie, disons, enfin, je sais pas, bien pensante, je sais.
C'est la vie ex-catholique, ça s'appelle juste la vie
ex-catholique. Donc, effectivement, j'ai été très, très critiqué Alors, j'ai reçu des critiques, effectivement, de tous les côtés. Pas pour me dire que le livre était mauvais, mais on me dit, vous rendez compte, vous parlez que des catholiques, pourquoi pas des bouddhistes ou des musulmans, etc. Vous savez, moi, je suis catholique.
C'est pas une religion, le bouddhisme. Je m'excuse, mais parce que je vais être un petit peu excessif. Le bouddhisme, c'est pas une religion. L'islam, c'est pas une religion.
4000 lettres. Je serais mieux de nous dire rapidement qu'est-ce qui est une religion pour toi.
Oh, la religion catholique.
Voilà, je me doutais qu'il y avait une combine dans le genre.
Alors, cela dit, j'ai visité une exposition très intéressante à Tokyo il y a 3-4 ans. Et effectivement, c'est le tableau donc, qui date du 15e siècle. Et les Japonais, donc...
Du quel siècle?
15e.
15e.
Ont des anges. Hein, c'est vraiment l'ange japonais. Donc, la seule différence, c'est qu'il a les yeux bridés. Voilà.
Alors il y a peut-être deux possibilités, c'est l'influence des jésuites qui sont arrivés après les Hollandais, avec les Portugais plutôt très rapidement au Japon, et puis aussi dans la religion japonaise, dans le shintoïsme, il y a aussi ce qu'on appelle les kami.
Ah oui, les esprits,
les kami,
oui,
c'est les esprits, c'est les esprits.
Qui kami,
kamikaze.
Kamikaze,
puisqu'on a dit que, à propos des incidents survenus dans la, comment s'appelle le centre commercial international, c'est ça, que c'était des kamikaze, ça n'a strictement rien à voir avec les kamikaze. Ouais, ils sont d'ailleurs pas davantage, je veux dire une petite.
Je voulais poser une question à Pierre.
Non, je peux faire juste un commentaire.
Oui, oui.
Ils sont pas non plus martyrs, hein, parce qu'on dit c'est les martyrs. Alors ceux qui pensent que ce sont les... Non, le martyr, il donne sa vie pour sauver une vie. Il ne se tue pas.
C'est
toute la différence. Bah oui, mais c'est bien ce que c'est pas un martyr.
Serge a évoqué le New Age tout à l'heure. Moi, j'avais lu ce livre il y a 7 ans, puisqu'on il se trouvait qu'on avait le même éditeur, donc je l'avais eu gratuitement. Et je m'étais empressé de le lire. Et donc, ce qui m'avait frappé, c'était le côté totalement américain. Mais notamment toutes les chansons que vous citiez, qui étaient systématiquement des chansons... Alors, c'est pas du tout une critique, je fais pas un procès contre la gnose américaine. Si, bien sûr, mais bon, pas là instantanément. C'est... Vous évoquiez un livre qui avait été publié dans les années 70 aux États-Unis sur ce sujet. Ils en avaient vendu 10 millions, je crois. Là, en France, vous en avez vendu, d'après ce que me disait notre éditeur commun à l'époque, 300 ou 400 000, je sais pas. Bon, mais il y avait cette idée d'intrusion d'une espèce de gnose américaine liée au, NDE, Near Death Experiment.
Les gens qui
tout
sont morts
et
qui reviennent.
Gardien, c'était l'époque du film Ghost. Alors, tout attendez, ça, c'est arrivé.
C'est intéressant parce que justement, le travail que je pose.
Non, mais moi, c'est pas du tout une polémique de personne. Hein, on est bien d'accord. C'est pourquoi ce thème est aussi, quand on parle de, moi, j'ai pas mal étudié le New Age pour faire mon bouquin sur Internet ou d'autres choses comme ça. Donc, lorsque Shirley MacLaine dit, même dans la damnation des stars à l'époque, c'était un peu lié à ce problème aussi. Avec le New Age et les stars, et donc elle reçoit des milliers de personnes, elle leur dit vous êtes tous des dieux. Et puis ensuite vous avez les stars qui décrivent leur NDE ou qui racontent leurs histoires comme ça. À l'époque il y avait eu l'histoire de Philippe Labro et tout. Donc je dis qu'est-ce qui est vrai là-dedans et qu'est-ce qui relève d'une manipulation mentale à l'échelon industriel pratiquée par les Américains pour générer une espèce de pseudo-Prozac ou d'un Prozac mental en disant aux gens vous vivez entouré d'esprits, soyez rassurés.
Non, je pense que là, c'est peut-être un peu extrémiste. Alors, je vous dirais, enfin, simplement pour vous rappeler que j'avais écrit ce livre parce que j'avais vécu moi-même une expérience extrêmement bizarre, qu'on m'avait tiré dessus et que j'ai vu les choses se passer au ralenti. Et que initialement j'ai essayé de faire comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai vécu quelque chose de vraiment étonnant, de surnaturel. Et je l'affirme parce que j'ai la preuve de ce que j'ai un constat de police tout simplement, parce que une voiture de location. Et c'est en discutant avec d'autres confrères journalistes qui m'ont raconté des histoires un peu similaires, des histoires étranges, mais j'ai dit il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est pas possible que on soit obligé de se mentir, que je me mentais à moi-même en voulant dire Dieu n'existe pas. Ou enfin, qu'il n'y a pas quelque chose, il y a une autre réalité. Alors, moi j'ai commencé, c'est là où j'ai fait effectivement la jonction, c'est parce que j'ai vécu effectivement une expérience dans laquelle le temps était suspendu. Hein, et c'est en lisant justement les travaux de Dr Moody, qui lui n'a jamais prononcé le mot d'ange dans ses livres, parce que lui-même il avait trop peur, d'abord c'est un médecin, et c'est en faisant en fait en trouvant le dénominateur commun du temps qui s'arrête, c'est-à-dire que des gens qui vous disent j'ai revécu l'intégralité de ma vie, j'ai revécu 60 ans de ma vie avec l'effet de mes actions sur les autres, etc., alors que leur crise cardiaque n'a duré que 3 secondes. De même ou des enfants qui sont morts et on a plusieurs cas des cas de médecins, c'est pas du tout, c'est vraiment un témoignage de, j'ai des médecins, des journalistes, des gens qui ont relativement la tête sur les épaules. J'ai pas cherché à faire vous comprenez, je n'ai jamais imaginé au moment où j'ai publié ce livre que ça allait devenir
c'est pas ma question,
et ce n'est pas du tout, non mais je réponds à votre question, je ne pense pas qu'à partir du moment où il y a une réalité, hein, c'est pas parce que effectivement que les expériences frontières de la mort existent que tout de suite, parce qu'il y a des milliers de gens qui la vivent, qu'automatiquement il faut la mettre sur une espèce de cabale de multinationales américaines, etc. Vous savez, c'est peut-être aller un peu.
Quelle est la
non, mais sincèrement, mais pourquoi n'en parlait-on pas en France alors qu'on en parle?
Je crois que c'est parce que ça révulse
aux États-Unis.
Ça révulse
le cartésianisme, on va dire encore.
Non, pas le cartésianisme.
Il a son mauvais génie, Descartes aussi. Non, ils ont qu'à lire, les gens.
C'est vrai, non, mais le cartésianisme, c'est un très mauvais exemple, parce qu'il n'y a pas moins de cartésiens que Descartes. Mais, enfin, c'est un très mauvais mot, en tout cas.
Vous parlez tout à l'heure de notre éditeur commun. Je me souviens effectivement que notre éditeur commun m'a dit, j'ai déjeuné avec le rédacteur en chef d'un grand groupe catholique, et il a dit, ce livre, donc, en parlant de Enquête sur les anges, sur Jean Gardner, il disait, vous savez, c'est trop surnaturel pour nous.
Oui, mais là, on
n'a
pas
le droit. J'ai l'impression qu'en France, on n'a pas le droit de
parler. Oui, alors là, on pose une.
Et moi, j'ai effectivement, je suis rentré, j'ai le sentiment, très sincèrement, d'être rentré comme un éléphant dans un magasin de porcelaine avec ce livre. Et c'est pour ça. C'est pour ça que comment voulez-vous que j'imagine que ce livre allait être traduit en silence et sans, c'était impossible. Je ne pouvais pas le savoir.
Mais je crois que en France, dans le génie français est, je le dis, révulsé par ce genre de choses. Et c'est pas à tort d'ailleurs, parce que le catholicisme, c'est vraiment une religion française. C'est vraiment quelque chose de très 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 français. Et parce que c'est une religion qui n'a pas besoin de preuves. On n'attend pas de preuves. Et tout ce qui est apparence de preuves ou apparence de moyens de forcer l'adhésion, ça gêne profondément les catholiques. C'est vrai, parce que c'est quand même assez contraire à la doctrine du libre arbitre. Et c'est d'ailleurs, j'écoutais l'autre jour l'entretien sur le Saint-Suaire, où l'argument opposé au Saint-Suaire, si j'ose dire, c'était pas un argument scientifique, il disait pas, ça a été fabriqué en 1370, ou les calombrodènes comme ça, il disait simplement, il y a une chose qui est gênante dans le Saint-Suaire, c'est que c'est tellement fort que c'est une sorte d'atteinte au libre-arbitre. Et les témoignages sur les anges, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que d'une part, on se dit, bon, bah, alors là, maintenant, on peut plus douter une seule seconde. Bon. Et puis, en même temps, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une espèce de formidable manipulation? Alors, pas de votre part à vous, mais c'est vrai qu'il y a des aspects ou des témoignages qui sont tellement troublants qu'on se dit, mais au fond, c'est du marketing. C'est une forme de marketing. Et le marketing, ça tient, c'est pas un truc des anges. Le marketing, c'est plutôt les anges rebelles qui vont faire des coups comme ça pour tromper leur monde.
Oui, voilà, c'est ça. C'est... Ah.
Vous n'avez pas eu l'impression, par moment, que vous étiez en quelque sorte manipulé à l'insu de votre plein gré?
Manipulé à l'insu de mon plein gré. Peut-être. Non, je ne crois pas. Toi, sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir été manipulé. Après, je pense qu'effectivement, après vu toute l'édition, s'est effectivement précipité sur les anges parce qu'il fallait absolument exploiter le filon des anges parce que c'était quelque chose qui marchait, parce qu'ils avaient vu que mon livre était pendant 6 mois dans la meilleure vente de l'Express, du Nouvel Obs, etc. Donc, il fallait faire surtout sortir des anges. Et alors, effectivement, donc on a vu tout et n'importe quoi, mais peu importe. Et je me suis bien gardé. D'ailleurs, je tiens à le rappeler. Hein, je vous le rappelle que d'avoir écrit tout de suite la suite hein, dans l'année qui a suivi. Je m'en suis abstenu. C'est le genre de prostitution intellectuelle à laquelle je ne me suis pas vraiment livré. Vis-à-vis des personnes qui nous écoutent, hein,
oui.
Parce que Dieu seul, si l'éditeur m'avait effectivement...
Je sais, il m'en avait parlé aussi. Ouais. Oui, non, mais ce qui est frappant, c'est bon, ces histoires viennent, on parle des envahisseurs, justement, des EGM. Ils viennent des États-Unis, on dirait, bon, on va dire qu'il y a une exception française, moi je suis le premier, on parlait d'exception française, donc on va dire une exception française, rationalité, cartésiano, catholico, con, ouais, on va dire ça comme ça, mais ces histoires d'anges et tout ça, ça vient exclusivement des États-Unis, ça vient pas d'Allemagne, ça vient pas d'Italie, ça vient pas du Portugal.
Mais pour une raison très simple, c'est parce que les Américains,
des États-Unis.
La grande différence, je peux vous le dire parce que j'ai vécu aux États-Unis, c'est que nous avons quand même effectivement une culture superbe, mais elle joue le rôle d'une encre. C'est que ça nous retient en bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, imaginez, genre je vous donne une idée, on va voir le maire de Paris, je dis voilà, nous on est génial, on va faire un canard géant et puis on va le faire flotter sur la Seine et puis tous les enfants vont venir le mercredi, etc. Vous allez être reçu par un sous-secrétaire ou du maire qui va dire, mais enfin, monsieur, pour qui nous prenez-vous? Aux États-Unis, ils sont encore jeunes, ils n'ont pas cette encre. Et vous allez avoir la même idée, eh bien, votre idée va être examinée, très sérieusement. Ils sont enthousiastes, les Américains sont enthousiastes pour tout, mais la grande différence, c'est qu'on ose en parler. D'ailleurs, la preuve, c'est que d'autres journalistes français, vous n'allez pas me dire que les cas qui sont là-dedans sont des journalistes américains, c'est pas vrai. Je veux dire, on a des cas, un certain nombre de cas français, on a des cas allemands, ce n'est pas exclusivement américain. Et les extraits de chansons que j'ai mis, effectivement, moi, c'était des chansons que j'écoutais quand j'étais adolescent, et je me suis souvenu, effectivement, qu'il y avait des anges dedans. Mais il y a également Julien Clerc, il y a d'autres compositeurs français. Ce n'est pas. Je pense que il faut oser dire ce qu'on vit. J'ai osé. Imaginez, il y a un journaliste. J'ai déjeuné avec un Jean-Michel Saint-Ouen, qui est un ancien rédacteur en chef du quotidien de Paris, et qui me disait, vous savez, là où le livre sur les anges, une des raisons pour lequel il y a eu ce succès, c'est que moi j'étais journaliste, je m'occupais de l'informatique, je m'occupais des sciences et techniques, j'allais suivre les lancements de fusées Ariane à Kourou. Et là où tout le monde m'attendait avec un livre sur l'informatique ou les sciences ou je ne sais quoi, j'arrive avec un livre sur les anges gardiens. Mais tout le monde était sidéré. Et dans les couloirs du journal, eh bien des confrères venaient me raconter des histoires similaires qu'ils avaient vécues. Moi je me souviens à l'émission de Dechavanne sur TF1, à la pause de publicité, le caméraman qui était en face était venu me raconter une histoire similaire. Sur CNN, une jeune journaliste a vécu ça, une histoire un peu similaire. Donc je pense que c'est simplement avoir l'honnêteté de raconter ce type d'histoire qui prévaut. Et c'est pour ça que tout simplement, c'est la sincérité de la rédaction de l'ouvrage qui a été reconnue par le lecteur, ni plus ni moins. Et à nouveau, je le répète, et aujourd'hui, franchement, je crois que tout mon monde que j'ai eu raison de faire, je vais refuser de faire la suite. La suite. Et si on a aujourd'hui une réédition, et bien des années après, c'est parce qu'on a une demande des libraires. C'était très net. Mais vraiment radical.
Ça s'appelle Enquête sur les anges gardiens, sur l'existence des anges gardiens. Et c'est un bouquin passionnant, il faut le dire.
Ah oui, c'est passionnant.
C'est tout à fait passionnant. Oui. Et c'est très rapidement écrit, c'est enlevé, c'est très. Nicolas a raison, c'est très américain dans la présentation. C'est bien fait. Et puis après, ben, on en fait ce qu'on veut. Comme dit un auditeur, votre émission est très intéressante. Il ne nous manque plus qu'Adeline pour nous parler des élections.
Il arrive.
2004. Il arrive. Avez-vous atteint le seuil d'incompétence politique? Mais monsieur, il y a longtemps.
Ça longtemps qu'on est incompétent. C'est pour ça qu'on nous garde.
J'ai toujours été d'une incompétence politique consternante. Je me suis toujours trompé sur les résultats, toujours trompé dans le choix de mes candidats. Donc, voilà, ne m'écoutez pas pour des raisons politiques.
Pour ça qu'on est des pauvres.
Mon beau-frère a demandé à sa fille si à l'école on avait respecté les 3 minutes de silence pour les victimes de New York, elle a répondu, on a dit 3 je vous salue Marie.
Ah bah c'est très bien.
Probablement plus efficace
que la minute.
Pouvez-vous rappeler le nom de l'auteur de l'enquête sur l'existence des anges gardiens?
Jovanovic.
C'est pas français, monsieur.
Le prénom.
C'est pas un nom facile.
Ça, c'est français.
Épelé.
C'est pas un nom facile à porter en ce moment. Milosevic, Jovanovic, même combat.
Épelé.
Jovanovic.
Jova, après.
Novic.
Vic.
C'est paru aux éditions Le Jardin des Livres.
Et le prix?
Et le prix, il est cher. Non, 189 francs. Il est gros, 600 pages.
Ça fait 600 pages.
Ouh là là là. Et puis, vous pouvez lire également. Il me reste 10 secondes pour vous recommander un livre méconnu de Nicolas Bonnal qui s'appelle Les territoires protocolaires, qui est un livre extraordinaire, je ne crains pas de le dire. Et en plus, si vous le lisez, vous pourrez dire que vous appartenez à une super élite.
Celle des 201 lecteurs. Voilà. Parce que là, on a parlé d'un best-seller, mais il y a les worst sellers.
Est-ce que c'est le livre qui est paru sur Internet?
Non,
parce que quelqu'un nous pose la question encore.
Internet,
on répondra après. Alors.
Internet, nouvelle voie initiatique aux belles lettres.
On entend Serge Beketch. On croit écouter Gérard Miller.
Qui est Gérard Miller?
Je sais pas.
Moi non plus.
Je sais pas, je joue pas. Je confondais avec le trompettiste. Non, je vois pas. Je sais pas qui c'est.
Alors, la semaine dernière, vous avez parlé d'erreur dans la Bible de Jérusalem.
C'est pas un trompettiste ?
Je ne sais pas, moi je connais
Glenn.
Pas.
Ah non, c'est Glenn. Glenn Miller, ça c'est bien Glenn Miller. Mais alors Jérusalem, je ne
sais pas. C'est pas ma musique. Alors, donc, la semaine dernière, vous avez parlé d'erreur dans la Bible de Jérusalem. Je n'ai pas pu prendre la référence et cela m'intéresse très fort. Quel ouvrage en parle ? Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me l'indiquer.
L'ouvrage qui parle des erreurs dans le...
C'est la revue.
Alors, c'est la revue du CEP.
Du CEP.
CEP. Mais malheureusement, l'adresse, je ne connais pas ça de mémoire. Il faudrait que... Il ne m'essayerait point que vous écrivassiez au Libre Journal, Madame 4, place France Liszt, 75-010 Paris. Là, vous pourrez commander quelques exemplaires du Libre Journal, vous abonner moyennant 700 francs, ou poser des questions. Vous pouvez faire tout ça dans la même lettre, d'ailleurs.
Et la même auditrice nous annonce qu'elle a raffolé du livre Enquête sur l'existence des anges et qu'elle salue la réédition et remercie l'auteur de ce magnifique ouvrage.
Je le remercie.
Serge Leveketch, peut-il préciser le numéro de la revue L'Autre Histoire qui fait part des documents révélant la manipulation de Pearl Harbor?
Le dernier, il vient de paraître il y a 3 jours, une semaine, quoi. Tout récent.
Alors, un auditeur souhaiterait avoir quelques informations sur les ouvrages de Nicolas Bonnal. Bon, premièrement, sur Internet,
Nouvelle Voie Initiatique.
Initiatique.
On voit bien que ce n'est pas un mot de votre vocabulaire, ça.
Non, pas très. Belle lettre. Et l'autre livre dont Serge de Beketch a parlé, Les territoires protocolaires, aux éditions... Michel Demaul, bravo.
Je vous assure que c'est un livre très troublant.
Je n'ai pas entendu parce que
je regardais le bouquin de Bonnal, Les territoires protocolaires. C'est une histoire, petit bouquin très très fort.
Témoignage d'une auditrice à propos des anges gardiens. Son petit-fils de 14 ans a eu un très grave accident de voiture dont il est sorti indemne. Il a toujours affirmé que pendant l'accident, il était dans une grande bulle blanche qui le protégeait.
Ah, moi, j'ai eu un témoignage par une sœur orthodoxe, dans une toute petite communauté orthodoxe dans le Péloponnèse. Elle m'a raconté qu'elle était en train de peindre des images sur la voûte d'une église qui venait d'être construite. Et comme elle peignait quelque chose sur la voûte, elle s'est penchée en arrière un peu trop, et elle a basculé par-dessus la rambarde de l'échafaudage. Et le plafond était à une douzaine de mètres. Et elle est tombée, sur le carrelage de l'église. Donc 12 mètres, ça correspond à 4 étages. Normalement, on l'a ramassée avec une éponge. Hein. Elle s'est relevée, elle est remontée, elle a terminé son travail. Et elle m'a dit, ça c'est pas du oui-dire, c'est elle qui me l'a raconté, qu'elle avait été recueillie dans sa chute par un ange qui l'a déposée sur le sol. Et un ami qui lui était puisatier en Grèce est tombé dans son puits, donc, en travaillant sur sur les parois du puits. Il est tombé, et pareil, un puits de je sais pas combien, 30 mètres, 20 mètres, il aurait dû être tué parce qu'il est tombé sur les rochers au fond du puits.
Je peux raconter
Il assure qu'il a été déposé aussi, qu'il a été retenu dans sa chute. Donc il y a des témoignages.
Je peux raconter une chose personnelle. Moi, je n'ai pas été gratifié de la vision angélique, ni d'un. Il y a eu sans doute des tas d'anges qui m'ont aidé, enfin en tout cas mon ange gardien très certainement, mais je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais à la limite, qu'on les voit pas, ça n'empêche pas qu'ils existent. Et à ce sujet, il y a une jolie petite anecdote qui est arrivée juste après la guerre. C'est au moment où Shalwan Kir était député à l'Assemblée nationale, parce qu'à l'époque, il y avait des prêtres qui étaient députés.
C'est pas un ange magardin qui a inventé le blanc cassis, quand même,
non ? Pas du tout. C'est celui qui a inventé le
oui, je sais,
le chamoine qui. Et alors, il y avait il parlait toujours du bon Dieu à l'Assemblée nationale, puis un jour, il y a un communiste qui se lève, il dit, écoutez, monsieur le chanoine, ça commence à bien faire, votre bon Dieu n'existe pas, d'abord, on l'a jamais vu. Et le chanoine a répondu, mon cul, tu l'as vu, et pourtant, il existe.
Daniel.
Quoi, c'est on a le droit de citer le chanoine.
Alors, on a la réponse. Gérard Millet est le psychanalyste trotskommuniste qui sévit à la TV avec Ruquier.
Qu'est-ce que c'est qu'un psychanalyste ? On va reposer la question pour avoir d'autres messages.
Mais qu'est-ce que c'est Ruquier ?
Rue quoi ?
Ruquier.
Je connais pas la rue, je connais
c'est
la rue.
Il y a
la rue Tédebout, la rue du Faubourg Saint-Honoré, voilà. La rue de Vaugirard, mais je connais pas la rue Ruquier.
Non, non plus. Je comprends rien à cette histoire.
Non plus, mais non, rien
Glenn
plus,
Miller, j'ai joué de la
des fois, non, mais des fois, on a des noms comme ça qui nous arrivent parce voilà. Que les auditeurs sont plus intelligents.
Miller avait autant d'humour que Serge de Beketch, franchement, ils sont.
Glenn Miller il était très loin.
Oui, c'est l'expression 7 ans de Miller, c'est pas ça, là.
De quel côté les anges gardiens se tiennent-ils ? Épaule droite ou épaule gauche ?
Toujours épaule droite. La gauche, c'est là où on lance le sel béni pour chasser le démon.
Alors
ça, bah, je le sais, hein, bah, ça, je sais tout ça.
Désolé, mais les films sur les anges ne sont pas nouveaux, c'est vrai d'ailleurs. Non, il y en a eu plus, hein, certainement, mais La vie est belle de Frank Capra, admirable
oui,
film.
Oui, très bien.
Avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore. Chef-d'œuvre, nous dit notre.
Comment tu peux redire ça ?
Lionel Barrymore.
C'est d'après un livre d'ailleurs.
C'est pour notre auditeur.
C'est d'après un livre. Hein.
Nicolas Bonnal, qu'entendez-vous par contre-initiation ? Il ne peut pas répondre.
C'est pas, il est parti.
Mais on lui posera la question la prochaine fois. Sur la question des anges, Jean-Paul II a donné une catéchèse dans les discours du mercredi 11 juillet 1986 au 26 août 1986, paru notamment dans l'Osservatore Romano de langue française, en langue française. Voilà une lecture pour vous, mon cher.
D'accord.
Pour la troisième deuxième réédition.
Et puis il y a une très bonne petite revue. Et là,
il y a une chose que je voudrais dire.
Ah ben, j'ai pas le droit de parler.
Si, mais
à propos mais j'ai pas le droit de parler.
Non, à propos du bouquin de Pierre. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup servi quand vous avez préparé ce bouquin, c'était les sermons de l'abbé Laguérie.
Ah, totalement,
sur
oui.
Sur les anges.
Ah, mais c'est pas que ça m'a servi, c'est que ça m'a réconcilié, entre guillemets, avec mon ange. Parce que justement, j'ai...
Mais lui, il a jamais été fâché avec vous, hein.
Non, mais moi, je le connaissais pas. C'est en entendant, enfin, je le raconte dans le livre, au début du livre, comment l'abbé Laguérie, que je ne connaissais pas du tout, ni d'Élève
ni
d'Adam, si je puis me permettre,
a
débarqué dans ma vie de manière, par le biais d'une cassette. C'était absolument étonnant, étrange, et c'est une coïncidence tellement extraordinaire, tellement phénoménale que même aujourd'hui, je suis voilà. Ébahi. Et je repense toujours, à l'abbé Laguérie avec beaucoup d'émotion. Voilà.
Il est toujours parmi nous, Dieu merci.
Oui, il est où ?
Non. À Bordeaux.
Elle est Bordeaux.
Oui. Oh, vous
me direz ça.
Bon Serge, alors que Dieu nous garde jusqu'à la semaine prochaine.
J'allais le dire. Bon courage et bonne semaine.